Bien, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, à présent avec Tribuna Latino-Americana. Et voilà, la radio, je rappelle que Radio Libertaire, c'est la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous êtes donc sur 89.4. Et nous venons d'écouter Para Llamar al Viento, c'est une musica nativa argentina, musique native argentine. C'était une composition et un enregistrement donc de groupe Abra Pampa, notamment de Pablo Urquiza, qui jouait donc Para Llamar al Viento, pour appeler le vent. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une émission qui sera consacrée à l'Argentine, en présence de Marcelo de Calpa, et qui sera un petit peu en retard parce que justement s'est rendu à une manifestation qui a lieu en dernière minute aujourd'hui pour dénoncer la politique guerrière et les massacres qui se sont déroulés à Gaza aujourd'hui avec 160 morts. Donc voilà, il arrivera vers 20h. Il nous racontera ce qu'il s'est passé.
Voilà.
Voilà.
Je pense que, avant de commencer les informations sur la mégatine, c'est important de faire une réflexion sur cette crime contre l'humanité qui s'est produit avec des avions qui bombardent les populations civiles, en sachant qu'il n'y a pas d'inhabile comme Gaza. Il n'y a pas de casernes militaires qu'on pourrait toucher, il n'y a pas de soucis d'armement, il n'y a pas de tanks, il n'y a pas d'avions. Donc, en connaissance de cause, on bombarde et on a déjà, d'après l'information de la radio et de la télévision, plus de 160 morts avec une centaine et centaine de blessés. Les hôpitaux sont complètement dépassés. Une population qui est affamée, elle reçoit...
Il faut rappeler qu'il y a un blocus.
Un génocide qui s'est produit. On verra bien qui sera le comportement de ceux qui s'appellent le gardien des droits de l'homme dans le monde, qui sont en Nations Unies et qui se font des grands discours, se gargarisent avec des grands discours de temps en temps. On verra bien quelle va être la... attitude, c'est ce qui va avoir des attitudes vraiment réelles, on va simplement se rester dans une semblance de réclamation contre un État qui devient vraiment fasciste, un État qui utilise la même méthode qui a souffert dans le passé ce peuple, le peuple juif, il a souffert de ce type de comportement qu'aujourd'hui les peuples juifs sont en train d'appliquer à d'autres populations humaines. Donc, c'est la contradiction de l'histoire et la nécessité aussi de que beaucoup d'Israéliens cherchent d'autres moyens pour trouver des solutions aux conflits existants. À l'Israël qui a occupé un territoire qui appartient à la Palestine et les anciens propriétaires de la terre de Palestine qui exigent et réclament leurs droits. Il faut trouver un autre moyen qui ne soit pas simplement le massacre des populations. Voilà. C'est pas parce que Israël, il y a les moyens économiques pour acheter des armes modernes et la complicité totale des États-Unis pour avoir des armements modernes, c'est qu'on peut accepter qu'ils se continuent à massacrer des populations civiles et dans une guerre qui ne dit pas son nom, mais quand même c'est un véritable génocide. Ce n'est pas un affrontement entre deux armées, sinon c'est simplement le bombardement de villes où il y a une population civile qui souffre les conséquences de tout cela. Mais je pense que les manifestations qui se déroulent en ce moment-là, c'est une manifestation qui se déroule actuellement à Paris. Et nous sommes téléphonés pour nous informer qu'il y avait des manifestations et qu'il y avait des affrontements même avec la police. Nous, on n'est pas au courant, mais nous pensons que ce type de manifestation va se produire partout dans différents pays parce que c'est vraiment trop brutal, ce comportement vraiment de massacrer des populations civiles. Bien, je pense qu'on va commencer pour annoncer notre émission. Lise va annoncer le déroulement de l'émission. À partir de des informations diverses qui viennent de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili, il y a aussi de la Bolivie qui sont des informations ponctuelles parce qu'on ne sont pas des dossiers. Nous rentrerons dans le sujet. Voilà. Et à partir de 8h, nous ferons un dossier avec un responsable de l'association CALPA, qui est une ancienne Association de défense des droits des peuples peuple argentins, et qui sera avec nous pendant une heure à peu près, 45 minutes. Voilà, et nous commencerons pour développer certaines informations qui sont assez graves aussi dans différentes parties de l'Amérique latine, comme par exemple le fait que actuellement, il y a une information qui vient d'être arrivée, de laquelle Evo Morales vient d'être invité à Russie pour une rencontre qui peut-être il va finir pour des échanges commerciaux. Donc, on voit bien la Bolivie rentrer dans les contacts avec la Russie, ou avec les pays d'influence de l'ancien empire russe. Et voilà, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais l'information est la première qu'on a, on reçoit. On ne s'est pas beaucoup développé, mais on sait qu'il va il est invité pour aller à visiter Russie pour une rencontre sur les coopérations mutuelles. Voilà. Ça n'a pas bien regardé aux yeux des Américains, cela, je pense. Nous pensons.
Voilà. Oui, forcément des autres, parce que c'est. Oui, aussi. C'est pas forcément.
Les Américains, aussi la Comté européenne. Mais... Oui, parce que il faut bien rappeler qu'actuellement, la Bolivie, elle est un pays qui est dans un processus de changement complet de ses structures institutionnelles. Dans les mois de janvier, ils vont avoir une élection. Ils vont avoir une élection pour approuver ou refuser une nouvelle constitution dans laquelle il y a des choses qui sont assez nouvelles pour ce qu'on a vécu toujours dans ce qu'on croit qui est démocratique, où les pouvoirs de la République, normalement, c'est basé dans trois volets. C'est les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs. Donc, dans les constitutions boliviennes, il y a un quatrième corps institutionnel qui est inscrit et qui doit être décidé. Si approuvé cette constitution, on aura le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir collectif des communautés. Ça veut dire les communautés indigènes, qui sont 32 communautés différentes, des peuples différents qui existent et qui sont reconnus en Bolivie, ils auront aussi la possibilité de discuter tous les projets de loi qui se déroulent dans, dans l'État bolivien dans l'avenir. Et leur veto pourra empêcher la création des lois qui portent préjudice aux intérêts de la population indigène. Donc, c'est une véritable révolution. C'est la reconnaissance que la population indigène qui est majoritaire en Bolivie, 64% de la population est d'origine indigène. Donc, et pour la première fois dans l'histoire de la Bolivie, de la Bolivie contemporaine, on va trouver la possibilité de que la voix des peuples indigènes soit reconnue de façon légale, en égalité avec les voix des colonisateurs. Bon, ça, c'est une information intéressante qui peut-être qu'on aura l'occasion, on aura un dossier pour, avec les invités boliviens qui pourront nous parler un petit peu sur un sujet qui nous intéresse énormément parce que c'est une véritable révolution dans laquelle, dans des populations, dans des pays où sont des populations indigènes importantes, diversité, et la possibilité de que ce peuple aussi peut avoir le droit à s'exprimer et être pris en considération quand on a des lois qui les concernent. Voilà, moi je propose un petit peu de musique pour que nous revenons tout de suite avec des informations diverses sur l'Amérique latine. Toujours sur Radio TV 89.4, Tribune Latino-Americana. Si vous voulez nous téléphoner, c'est simple. Vous marquez le 01-43-71-89-40 et voilà. Vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous apporter des informations ou, pourquoi pas, autre type de communication. Merci.
Ya me voy, esto pago de
C'est un tout peu sous les l'organisation de la mère et familier de ce nouveau
illusion y nada más. Eso fue vida mía, nuestro amor. Eso fue vida mía, nuestro amor. Camino largo, camino confidente de mi amor. Llévame lejos, muy lejos, el sentido nuestro. Ay, 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 ay. Quien te amaba ya se va, adiós, adiós.
Vous êtes donc avec Tribuna Latino-Americana. Maintenant, on va donner quelques informations, des brèves. Et je donne la parole à Nestor. Voilà. Nestor.
C'est un groupe de musique intéressant que tu viens de mettre, ou les passages, je veux dire. Et il n'existe plus déjà, mais il a joué un rôle très important pendant 20 années en Amérique latine. Il s'appelle Los Chalchaleros. Los Chalchaleros. Spécialité des musiques de la campagne de l'Argentine, assez belle, avec un style très, très spécial, qui a dominé la scène dans les années 50 et 60, avec beaucoup de succès. Los Chalchaleros. Bien, l'information nous vient de Montevideo. Les maires et les familiers des Uruguay arrêtés et disparus dans la République de l'Uruguay, ils ont créé une institution nationale des droits humains. Avec la conviction qu'il n'existait pas une véritable démocratie sans le respect des droits humains, cette organisation, ils sont décidés, plusieurs organisations sont décidées de se réunir dans un seul groupe qui a permis la constitution de ce qu'on appelle l'Institut National des Droits Humains. Depuis l'avril de l'année 2000, il y a eu beaucoup de revendications faites pour la Commission Nationale des Droits Humains qui existait à l'époque. Et la société uruguayenne n'avait aucun instrument efficace à niveau international pour promouvoir, protéger les droits humains. Donc, c'est nécessaire une institution nationale des droits humains qui propose et génère des débats sur une politique nationale dans les sujets si délicats qu'on sont les droits humains. Les fonctions d'attribution qui sont prononcées sont les mêmes établies dans la loi qui vient de se créer. Un groupe d'associations, des familles, aussi des disparus, des arrêtés et disparus, se sont réunis, ils sont fait des questions dans la presse pour fêter cette véritable succès de constituer un institut qui est comme objectif être représenté sur le droit humain, qui sont représentés dans les organismes d'État et des organisations qui sont non gouvernementales à niveau national comme au niveau international. Donc, ils ont publié un communiqué public qui a été diffusé, lequel nous avons donné notamment, et qui permet de penser que l'Uruguay s'échappe à des plombes qui a imposé la dictature et le gouvernement qui se sont succédés après la dictature pour laisser lever, pour regarder un peu au-dessus de ces chapes de plomb sur tous les massacres, toutes les violations des droits de l'homme que les militantes de la gauche uruguayenne sont souffert et que jamais on a pu avoir accès à cette information jusqu'à aujourd'hui, depuis presque 40 années. Donc, aujourd'hui, nous considérons que c'était positif. On a l'espoir de penser que dans l'avenir, cet institut nouveau, institution nationale des droits humains, reconnu à niveau international pour les organismes internationaux, peut jouer un rôle important pour faire connaître la vérité, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette période noire de la dictature uruguayenne, qui est aussi complice de le travail de disparition des militants chiliens, paraguayens et boliviens et argentins dans ce qui est connu dans l'histoire comme les plans Condor, dans lesquels, pendant la période de dictature des années 60, 74, 80, on a rencontrer une complicité, la création d'une internationale militaire pour les dictatures, composée pour le gouvernement du Paraguay, de l'Uruguay, de l'Argentine, le Chili, hein, pour faire disparaître les opposants qui s'étaient réfugiés dans leur pays dans différentes occasions. Donc, les Chiliens qui sont réfugiés en Argentine étaient fait disparaître pour la police argentine avec la complicité des militaires chiliens qui voyageaient pour donner force à cette espèce de nettoyage de toute la gauche latino-américaine de l'époque. Dans le cas de l'Uruguay, c'était pareil. C'est en Uruguay où il a été même empoisonné un espion assez importante de la dictature de Pinochet, qu'il est parti à se réfugier là-bas parce qu'il avait peur d'être éliminé pour les militaires chiliens. Et la Gestapo chilienne de l'époque, la DINA, il est parti à se réfugier en Uruguay et là-bas il a été assassiné aussi. Donc c'est une noire histoire qui encore est en train de se construire, s'éclaircir, parce qu'actuellement au Chili, il y a un procès dans lequel il y a une vingtaine de militaires qui sont en prison et qui sont liés à cette véritable internationale de terreur qui a été installée pour les militaires de 4 pays de l'Amérique latine. Je répète, le militaire du Paraguay, de l'Uruguay, de l'Argentine, le Chili, ils ont constitué ce qu'on appelait la caravana de la muerte, une véritable caravana de la muerte, ça veut dire de voyage des militaires d'un pays à un autre pour identifier les militants et appeler Félix Parent. Beaucoup de ces militaires ont été lancés à la mer. Maintenant, on a des confessions faites pour des militaires qui reconnaissent avoir volé un hélicoptère et avoir envoyé des gens vivants à la mer et des autres, et des cadavres aussi. Bon, voilà, c'est comme ça la vieille histoire de l'Amérique latine. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est important de le rappeler de temps en temps. Voilà, et ça c'est sur l'Uruguay. On parlait de cette famille de disparus qui se sont constituées. Si vous voulez contacter cette organisation, c'était tellement facile. Vous pouvez avoir un site web www.serpaj.org.uy. Voilà, et ça c'est le site que vous pouvez visiter, où vous trouvez des informations sur cette organisation. Si vous voulez contacter directement, vous écrivez Famidesa, tel comme ça, comment se prononce, Famidesa, Famidesa, @, après, Adinet, Adinet, adinet.com.uy. Donc, pour finir cette information, on vous donne aussi l'adresse le téléphone, pardon, 198-2-29-16-25. On répète, téléphone 598-2-29-16-25. Voilà. C'est fini l'information. Maintenant, on va passer à notre information qui est assez intéressante sur un phénomène que tout le monde a entendu parler. Il s'agit de la crise économique qui se produit actuellement aux États-Unis, qui touche le reste du pays. Et le grand conflit qui existe actuellement dans les grandes entreprises de l'alimentation, surtout des vêtements, qui sont en train de mettre à la porte des milliers de travailleurs. Mais dans ce qu'on ne connaît pas, c'est la politique laborale, la politique économique des travailleurs qui travaillent dans les grandes entreprises américaines. On a un document ici intéressant qu'on pourrait développer, dans lequel on nous montre de quelle façon, dans l'opération qui s'est produite aux États-Unis, Canada, Mexique, Inglaterre, Japon, Chine, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Argentine, Brésil. Et je dis, au Chili, une grande entreprise américaine qui s'appelle Walmart, qui est dédié à la vente au détail, c'est une grande multinationale, aujourd'hui se trouve dans une situation assez grave. Et c'est pour cela que nous croyons que c'est important de voir quelles sont les conséquences pour les travailleurs de cette crise. Par un côté, il y a des milliers de travailleurs qui ont été touchés pour la crise et donc qui risquent de perdre leur travail. Ah, mais quelles sont la base de toute cette histoire-là? Dans les cas du Chili que nous connaissons un petit peu, la situation, on peut la définir un peu dans deux mots. En juillet de 2007, au Chili, il a commencé à avoir des problèmes dans ce qu'on appelle les fonds de pension, non? AFP. Le 23 novembre 2008, on a déclaré de façon officielle que le fonds de pension il avait perdu 30,65% de sa valeur et avec un chiffre de perte de 18,8 billions de pesos, qui équivalent à 27 937 millions de dollars. Dans la même période, des autres fonds de pension qu'on appelle fonds A, ils ont perdu 47,11% de leur valeur. Et un autre fonds de pension qu'on appelle B, elle a perdu 36,46% de sa valeur. Donc, ce qui est grave que les 91% des personnes qui sont en compte dans ces fonds-là, la grande majorité, ils ont la compte dans les fonds D et aussi dans les fonds B. Donc, les pertes sont assez énormes. Et ça, c'est le cas du Chili. Après, on passe à l'Argentine. En Argentine, par exemple, pour une ample majorité, le Parlement argentin, le 7 novembre dernier, a fait passer une loi de nationalisation des retraites. C'est une proposition faite pour le gouvernement de Cristina Fernández de Kirchner qui a provoqué une véritable révolution. Les propriétaires des fonds de pension en Argentine, ils ont crié que c'était une véritable expropriation. Dans tout cas, la mesure a provoqué une fugue de capitaux et de fortes baisses dans les bourses de Buenos Aires et de Madrid. Grande préoccupation de la part des entreprises espagnoles qui sont une forte participation dans les fonds de pension. Ces organismes privés de gestion qui aussi contrôlent l'économie prévisionnelle. Ça veut dire, la livrette, comme en France, la livrette d'épargne, non? Donc, à l'Argentine, ceux qui s'opposent à la mesure prise pour le gouvernement, ils ont peur de perdre le contrôle de 28 000 millions de dollars, que c'est le total de capital que sont actuellement dans les fonds de pension. Donc, la nouvelle loi établit que cet argent-là seul pourra être utilisé pour le paiement de retraites et que son invitation sera soumise à la supervision d'une commission bicamérale et un conseil dans lequel il y aura des chefs d'entreprise, des syndicats et aussi des syndicats de retraités, des syndicats de fonctionnaires, de la banque et aussi la présence de quelques législateurs, ça veut dire des sénateurs et des députés. Cette réforme ferme un chapitre sur la privatisation qui a été imposée il y a 14 années et qui a permis la suprématie du fonds de pension sur un sujet tellement délicat comme c'est la retraite des travailleurs. Maintenant, c'est l'État qui se propose de répondre aux travailleurs qui les propose aussi un plan d'économie d'épargne pour capitalisation, mais avec la garantie de l'État où il n'y aura plus de dangers de spéculation. Voilà. Ce sont deux volets, deux petits détails pour montrer un petit peu deux différences. Dans le cas de l'Argentine, il y a une réaction de la part du gouvernement pour protéger les retraités. Dans le cas du Chili, que c'est un véritable laboratoire, c'est le seul pays du monde dans lequel a existé un système de pension totalement privé pendant 25 années. C'est un véritable laboratoire. Cette ampliation vient directe à la théorie de Milton Friedman et a été imposée par la force pour la dictature d'Augusto Pinochet. La réforme a été mise en marche à partir de 1980 sans aucune consultation au Parlement ou à l'opposition pour l'économiste libéral José Piñeyra, qui actuellement il veut être candidat à la République au Chili, qui considérait que la capitalisation c'était le système idéal. Bon, ça c'est un petit peu le petit passage qu'on pourrait apporter sur les fonds de pension entre le Chili et l'Argentine. Le résultat que le Chili a des pertes assez importantes, mais il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement pour prendre des mesures semblables à ce qui s'est passé en Argentine. Hein? Continue la situation de débat, mais il n'y a rien d'autre, malgré qu'il y a une forte pression d'un secteur important des parlementaires, même de droite, qui réclament finir avec les fonds de pension. Qu'est-ce que les choses sont pour dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment, c'est un phénomène assez compliqué, parce qu'on commence à voir les premiers résultats, ça veut dire les premiers rapports statistiques pour pouvoir mieux comprendre les conséquences de la crise en Argentine et le Chili. En Argentine, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu la publication des montants qui sont reçus les gens des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Ça qui produit vraiment une forte pression dans les citoyens et aussi dans la société en général. Parce qu'on a considéré que l'économie des travailleurs était en train de payer des salaires incroyables, hein, et a provoqué, une grande indignation. On calcule que un tiers des 12 000 millions de dollars qui passaient par le fonds de pension étaient redistribués dans ce qu'on appelait prestations de services. Ça veut dire, c'était destiné au salaire des principaux dirigeants pendant que les commissions données aux directeurs commerciaux aussi des bénéfices astronomiques. En Chili, c'était la même chose. Donc, à partir de 2007, en pleine crise, quand on commence à se produire la perte de capitaux assez importantes, 27-30% de capitaux, on a connu par la presse en Argentine que 150 dirigeants de fonds de pension recevaient 200 millions de pesos argentinos. Ça veut dire l'équivalent à 305 000 paiements de personnes à la retraite. 305 000 personnes à la retraite recevaient 200 millions de personnes argentines, mais on comparait que c'était 150 responsables des fonds de pension qui recevait cette quantité, 200 millions de pesos argentins. Donc, cela a produit un véritable scandale. Et ça a continué, l'information à se diffuser. Et bon, maintenant, la situation a fini avec l'intervention de l'État, dans laquelle aujourd'hui, il y a une loi dans laquelle l'État garantit aux retraités sa retraite d'une façon correcte, et c'est fini la spéculation dans le fonds de pension. Voilà. C'est pas le cas de le Chili. Donc, Cristina Fernández Kirchner, la présidente de l'Argentine, bravo, félicitations pour finir avec la privatisation de on peut dire, les vols, les coqueries que signifiaient les fonds de pension dans les retraites des travailleurs.
Oui, il faudrait peut-être dire d'où vient cette information, puisque finalement, on l'a. C'est un excellent article qui se trouve dans le Monde diplomatique chilien
de ce mois-ci,
du mois de décembre 2008. Donc, pour ceux qui veulent s'y abonner, je pense qu'il faudrait déjà connaître le site. C'est www.lemondediplomatique.cl. Pour leur écrire, c'est edicion, edicion.chile, chile, @lemondediplomatique.cl. L'article s'intitule « Sismo sobre los fondos de pension » de Manuel Riesco, qui est en fait du Centre d'études nationales de développement alternatif. Et ce Centre d'études nationales de développement alternatif, le site s'appelle www.sendachile.cl. Et c'est un long article de pages. Et il y a d'autres très bons articles, mais je pense que aujourd'hui, on va consacrer la deuxième partie de l'émission à l'Argentine.
Il faut rappeler qu'on parle de monde diplomatique version chilienne. Parce que le monde diplomatique, il s'est produit en Argentine, s'est produit en Bolivie, s'est produit en Venezuela, le Chili. Au Mexique, il a été suspendu parce qu'il y a eu deux directeurs du monde diplomatique qui ont été assassinés. Donc, il n'y a plus de monde diplomatique en espagnol au Mexique. Mais ce monde diplomatique en espagnol, dans chaque numéro, il y a deux articles, en dehors des articles que vous trouvez dans le monde diplomatique en français, deux articles qui correspondent à la politique latino-américaine spécifiquement. Donc, dans ce cas-là, nous croyons que l'article aussi, vous pouvez le trouver dans le monde diplomatique en français, Porque c'est un article de caractère international qu'on correspond au problème des fonds de pension qui aussi ici en Europe commence à vouloir s'installer. Et voilà. Et nous croyons que c'est intéressant de s'en faire la publicité, dire que le monde diplomatique elle arrive à apporter dans les institutions chiliennes des informations assez intéressantes. Pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent bien nous contacter aussi au nouveau téléphone 01 43 71 89 40. Nous pouvons enregistrer sa demande et transmettre directement votre demande si vous voulez vous abonner. Le prix d'abonnement, c'est annuel, hein, ils sont 12 numéros à l'année. Et je ne me trompe pas, je crois que ce sont pour l'étranger 75 euros, c'est un peu cher dis donc, non, mais c'est un document assez intéressant en espagnol.
C'est pas si cher. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une édition, c'est une association je crois, mais je crois que la structure est, je crois pas me tromper, mais enfin c'est, ça s'appelle Editorial Creemos, en fait, c'est Aún Creemos en los Sueños. Nous croyons encore dans les rêves. Et il publie également, en dehors du journal du mensuel du monde diplomatique chilien, il publie également des petits ouvrages qui, pour les Chiliens, sont accessibles parce que généralement les livres sont assez chers au Chili. Et ceux-là sont des petits ouvrages raisonnables de prix et qui, avec beaucoup de titres différents. Pour ceux qui ont de la famille au Chili, ce serait bien de pouvoir leur faire parvenir cette information. Le dernier, d'ailleurs, est en fait une traduction d'articles différents de Ignacio Ramonet, La crise del siglo. C'est plein d'articles sur la globalisation, la spéculation financière, le capitalisme sauvage, les cracks, etc. Donc, ça s'appelle La crise del siglo. Il y en a un autre qui a été fait aussi cette année, je pense, 2008, je crois. Oui, c'est ça, septembre 2008, qui est un ouvrage très intéressant sur l'histoire et les luttes du peuple Mapuche, des textes de Elikura Chihuahilaf, Rosamel Miyalman, Alain de Valpo, Jaime Massardo et Carlo Ruiz. Ça s'appelle Historia y luchas del pueblo Mapuche. Voilà pour l'annonce, et puis dans cette édition du mois de décembre, il y a beaucoup d'autres articles, mais qui concernent un petit peu tous les pays du monde, y compris d'ailleurs sur la Palestine, Gaza tout particulièrement. Donc peut-être maintenant on va écouter juste un petit morceau de musique, encore argentine, on va être en musique argentine aujourd'hui.
Ya me voy, esto pago dejaré,
casa, lo que ha sido nuestro amor, mi pesar, lo que ha sido nuestro amor, ilusión, ilusión, ilusión y nada más. Eso fue vida mía, nuestro amor. Eso fue vida mía, nuestro amor. Camino largo, camino confidente de mi amor.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire avec Tribunal Latino-Americana. On va à présent faire une petite information
de l'Argentine, de la Provence de Salta. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive à la Provence de Salta? Il arrive que c'était une région où il y avait beaucoup d'indigènes qui habitaient sur cette terre-là et que petit à petit, bien sûr, avec la colonisation faite du passé et la nouvelle colonisation moderne, les indigènes sont petit à petit étaient poussés à l'intérieur ou par l'intérieur de la jungle ou de la province ou c'est le monte, on vient partir à la ville pour essayer de trouver le travail. Donc, ce sont les indigènes qu'on appelle les Wichi. Les Wichi sont des peuples qui habitent depuis toujours dans ces régions-là. Et bien sûr qu'ils sont en train de maintenant de se battre dans les cas pour empêcher cette véritable expropriation de ce territoire central. Donc, les caciques Wichi Cabana, par exemple, il a plus de 60 plaintes dans la tribunal de justice, soit nationale comme provinciale, pour réclamer la possession des terres centrales qui les correspond pour les droits constitutionnels argentins. Parce qu'en Argentine, la constitution argentine, elle reconnaît les droits en centrale des peuples indigènes. Mais ici, ne se respecte pas. Donc, il y a toute une révolte contre l'Église, contre les fondations, contre les ONG, même contre les anthropologues. Ils disent, eux, ce sont complices de tous les politiques qui sont venus à nous raconter cette histoire et qui continuent à nous exproprier nos terres, à nous empêcher de vivre dans notre territoire. Et chaque jour, en situation de pauvreté la plus grande, basta, nous continuons à nous battre. Maintenant, on est en train d'expulser toute machine qui vient dans notre territoire. Nous, immédiatement, l'arrêtons. Même si après il faut aller au tribunal, nous continuons. Chaque fois qu'ils tentent une machine pour faire de nouvelles routes pour essayer de nous approprier notre terre, le Wichi Cabana a dit, nous continuerons depuis le mois de novembre jusqu'au 20 décembre, nous continuons à arrêter tous les véhicules qui rentrent dans notre territoire. Même si viennent avec autorisation faite pour le gouvernement de la province, nous ne les sommes pas passés. Donc les lois, ils les font les blancs, hein, et c'est eux qui la gèrent, mais ce sont des lois qui ne bénéficient pas les peuples indigènes. Nous avons une expérience de plus de 50 ans avec cette histoire de fondation de cette église qui nous ont toujours demandé de faire une réclamation de la légalité traditionnelle pour récupérer nos terres. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé. Chaque jour, on a moins de terres, chaque jour, on a plus plus pauvres, parce que si nous vivons de la terre, nous enlevons la terre, nous ne voulons pas finir dans les villes pour nettoyer les latrines des blancs. Nous voulons continuer à vivre ce que nous sommes, mais pour ça, on a besoin de garder notre terre. Donc, on a ras-le-bol de voir que des professeurs de l'université Sartre viennent à nous voir ici, ils sont de grands discours, après ils voyagent à l'étranger pour expliquer comment nous vivons. Nous, on est fatigués de tout cela. Et donc, basta, on coupe complètement toute relation amicale avec tous ces pseudos amis qu'on a, que jamais nous ont apporté rien du tout. Les communautés originaires de Provence sont fatiguées d'être exploitées pour, avec des discours et avec toujours des gens qui arrivent en camionnette 4x4 avec tout le luxe et ils commencent à nous raconter des histoires et finissent pour nous arracher partie de notre terre. Dans
quelle région?
Dans la région de Mosconi, général Mosconi, ils vivent quand c'est communauté originaire, majorité Wichi. Il y a 10 communautés qui sont dans le Chaco Salteño aussi, qui ont été déplacées de façon violente, etc., pour la construction des routes, etc. Donc, aujourd'hui, on voit les jeunes indigènes complètement saoulés, sans aucun espoir de vivre dans cette terre. Des filles se prostituaient sur les routes de la route 34, général Mosconi. C'est un véritable génocide social et le gouvernement régional, la municipalité et le gouvernement central ne font rien, absolument rien. Ils continuent à détruire notre terre, à nous éclater. Donc nous décidons de nous arrêter toute présence des entreprises qui viennent à la recherche de pétrole, de l'eau et à nous fêler la terre. C'est fini. Et nous continuerons encore à rencontrer d'autres indigènes pour élargir notre mouvement. Voilà. Voilà la situation d'Anina.
C'est très intéressant parce qu'ils ne sont pas tellement connus, en fait, par rapport
non,
à
les Wichi, non, les Wichi, non, en Salta, ouais. Et qui ne sont pas très nombreux parce que c'était dans une région très grande. Donc, ils sont éloignés des communautés. Donc, c'est une situation comme ça. Mais aussi, on a aussi les problèmes de l'anniversaire, je crois. De la mort d'un Mapuche,
oui, non, il faut rappeler d'abord
la police militaire chilienne, non?
Oui, il y a 2 ans, le jeudi 3 janvier 2007, c'est un jeune étudiant en agronomie, un jeune étudiant Mapuche, Mathias Catrileo Quesada, qui est mort, tué d'une balle dans le dos par un officier de police militaire chilien, Walter Ramirez, qui a d'ailleurs été mis en examen pour violence injustifiée ayant entraîné la mort, mais depuis a été laissé en liberté. Donc impunité comme d'habitude, comme ça s'est passé avec l'assassinat d'Alex Lemoun en 2004. Et voilà, que beaucoup sont morts. Enfin, je dirais aussi un vieil homme âgé qui était, je crois que c'était au mois d'août 2006, si je me souviens bien, qui avait été victime d'une... dont la maison avait été envahie par les policiers à la recherche de chevaux volés et qui, lors de cette expédition, disons, policière et militaire, parce qu'on ne fait pas beaucoup la différence avec les uniformes policiers et militaires là-bas, il avait été tué et deux de ses fils ont été blessés simplement pour une simple perquisition. Il y avait c'est vraiment commun les morts et enfin les morts non les blessés oui les morts il y en a eu déjà 3 ou 4 si on compte à peu près. Et depuis on peut dire que le gouvernement chilien a poursuivi, sinon intensifié, sa politique de répression et de persécution à l'encontre des communautés mapuches. surtout les communautés en conflits territoriaux et en état de siège permanent à cause de cela. Et dans tout cela, il faut aussi remarquer que ce dont on ne parle pas très souvent, c'est les traumatismes physiques et psychiques que subissent les enfants mapuchés au cours des nombreuses perquisitions qui sont menées pour rechercher des armes. C'est un petit peu, ça rappelle un peu la situation en Palestine, évidemment. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport en 2004 qui avait été réalisé par un service de psychiatrie de l'hôpital d'Angol dans la commune d'Ercilla, qui avait donc observé 11 enfants d'une communauté, la communauté Roséguignon, qui est située dans la commune d'Ercilla. Et ces enfants avaient entre 2 et 15 ans. C'étaient tous des enfants membres de familles touchées par des situations répétées de violences policières. Et on s'est rendu compte que de la gravité des traumatismes que ces enfants subissaient. Des symptômes qu'ils présentaient, c'était des maux de tête, des yeux enflammés, un sommeil peu réparateur, d'une grande fatigue, une incapacité à se concentrer pour à l'école, des cauchemars, des maux d'estomac, des difficultés dans leurs relations interpersonnelles, et voilà. Donc, cet état de fait, c'était évidemment lié aux violences dont ils étaient non seulement témoins, mais aussi victimes, parce qu'ils voyaient aussi la façon dont leurs parents étaient malmenés, frappés, comme souvent eux l'étaient. Par ailleurs, ici, il faut parler d'une chose nouvelle ces dernières années, c'est les interrogatoires d'enfants qui sont menés par des policiers civils ou en uniforme aussi dans les écoles et les collèges, et ces interrogatoires d'enfants mapuchés, c'est pour savoir s'ils savent qui a des armes dans leur communauté, qu'ils donnent des informations, des noms, etc. Donc c'est toujours accompagné de menaces, et ça ce sont des opérations qui se font relativement, je ne dis pas régulièrement, mais ça s'est déjà opéré plusieurs fois. Selon un article en date du 14 décembre, là, dernier de cette année, de Paulina Acevedo, qui est journaliste de l'Observatoire Ciudadano et collaboratrice de la revue Mapuche Esquintoué, le chiffre des enfants victimes de la répression au territoire mapuche continue d'augmenter, affectant aussi des bébés, puisqu'ils sont tels qu'une nouveau-née d'à peine 7 jours qui a été intoxiquée par une grenade lacrymogène lancée à l'intérieur de l'habitation de ses parents, parce qu'effectivement, les grenades lacrymogènes sont très fréquemment employées pour obliger les familles à sortir de leur maison et à pouvoir être fouillées. Donc on peut faire un petit rappel historique rapide sur tous les cas d'enfants et de jeunes mapuche, pas seulement d'enfants, mais aussi de plus jeunes. Il y a eu une jeune fille de 11 ans en 2001 qui a été blessée à l'épaule par un tir de plomb anti-émeute qui lui a infligé de graves lésions qui ont nécessité son hospitalisation. Les parents ont porté plainte contre la police, à cause de cette plainte contre la police, elle a été ensuite séquestrée et menacée par des policiers en civil. En novembre 2002, alors qu'il participait à une récupération de terre dans la commune d'Ercilia, Alex Lemoun, qu'on a cité tout à l'heure, âgé de 17 ans, a été touché en pleine tête par une balle de calibre 12 tirée par un officier de police militaire. Il est mort à la clinique allemande de Temuco après avoir agonisé plusieurs jours. L'officier Marco Aurelio Treuer n'a jamais été poursuivi pour ce crime. Il est demeuré dans ses fonctions. En 2006, Patricio Keipul Millanao et un ami, Anton Marian, âgés tous les deux de 11 ans, qui se rendaient à leurs travaux quotidiens, ont entendu des coups de feu et sont courus se réfugier dans les bois pour ne pas être atteints par des tirs de la police militaire en train de perquisitionner leur communauté. Ils sont restés ainsi cachés pendant 2 jours, terrifiés de retourner dans leur communauté. Le 6 décembre 2006, un autre enfant, qui s'appelle Lemoun, âgé de 8 ans, a perdu 2 de ses doigts au cours de l'assaut des forces spéciales de la police contre le bus dans lequel il voyageait avec d'autres Mapuche de retour dans leur communauté. Sa mère avait reçu au cours de cet assaut deux impacts de balles dans les jambes. Le cas d'Antu Lemun a été signalé et dénoncé par l'UNICEF du Chili. À la demande de l'Observatoire des droits des peuples indigènes, l'ODPI, du Centre de recherche et de promotion des droits humains, de la communauté Mapuche de Temucuicui et en présence d'observateurs d'Amnesty International et de représentants d'organisations de défense des droits de l'homme d'Argentine, de Bolivie, du Nicaragua et du Chili, une mission internationale d'observation a enquêté sur la violation institutionnelle à l'encontre du peuple Mapuche les 26 et 27 janvier 2007. Et bon, c'est ainsi que la mission s'est rendue dans plusieurs communautés, notamment celle de Temucuicui et celle de Makewe, écoutant les témoignages d'enfants, de jeunes, de femmes et de personnes âgées. Le chef local de la police, Augusto Carmona, a été également interrogé. La mission a noté de multiples violations des droits de l'homme de caractère raciste de la part des institutions de l'État. Voilà. Le rapport est assez détaillé. On va passer sur ce sujet puisque notre invité, Marcelo de l'association Calpa, vient d'arriver. Donc il va nous donner des informations sur la manifestation qui s'est déroulée tout à l'heure. Je pense que c'était à République, Marcelo.
À l'Opéra.
À l'Opéra.
À l'Opéra, en invitation pour la...
Et ensuite,
on va demander
de la situation de l'argent.
Tu pourrais nous parler un petit peu de ça.
Actuellement. Pour ce qui concerne les informations sur la situation des communautés Mapuche, on reprendra l'information dans deux semaines, en plus en détail. En tout cas, actuellement, l'anniversaire de la commémoration de la mort de Matias Catrileo Quesada va avoir lieu le 3 janvier prochain, à tout près, dans les territoires Mapuche et à Temuco certainement aussi. Donc, on pourra parler de ça le 10 janvier dans notre prochaine émission. L'antenne, Nestor, et la parole, le micro.
Bon voilà, et nous avons avec nous maintenant notre invité de l'association Calpa, hein, notre ancien et cher ami Marcelo. Voilà, Marcelo, tu viens de participer dans la manifestation, raconte un petit peu.
Oui, en venant ici, j'ai appris par la radio qu'il y avait une manif convoquée par des organisations palestiniennes, surtout par des étudiants, bien sûr, contre la massacre, la vraie massacre que Israël est en train de faire à Gaza avec la complicité de tout le monde, de tout le monde. Alors, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je suis allé, malheureusement, je suis arrivé un peu quand la manif était à la fin, disons. Mais, bien, il me semble que c'est important que cette manif ait lieu et qu'ici à Paris, dans les jours prochains aussi, si c'est le cas, à mon avis, la massacre va continuer. Si c'est le cas, on devrait à nouveau manifester et surtout essayer que lundi, si c'est le cas, il y ait une manif appelée pour tout le monde, par tout le monde, contre l'agression du peuple palestinien qui, malheureusement, comme on sait, s'est fait à partir de l'agression israélienne, mais avec la complicité de tous les gouvernements capitalistes du monde.
Mais justement, on avait parlé au début de l'émission, on rappelait un petit peu ce véritable génocide contre un peuple qui il est affamé, il vit dans une condition vraiment terriblement mauvaise, avec une acceptation de la communauté internationale le comportement d'Israël qui s'est transformé en un véritable pays qui utilise la même méthode n'importe quel système fascistoïde, disons, pour ne pas parler doucement. de massacrer les peuples, les populations civiles, semble un petit peu se mettre à la même hauteur que la Russie il y a pas longtemps, quand il a commencé à massacrer les Tchétchènes, à massacrer d'autres peuples qui, c'était pas l'armée exactement qu'on attaque, c'est on attaque le peuple en général. C'est pareil, c'est le même phénomène. Donc, on condamne des fois le bout de lèvres de certaines choses, mais là c'est un véritable génocide, parce que c'est pas des casernes qu'on attaque, je répète, c'est pas des tanks qu'on attaque, c'est pas les aéroports avec des avions de guerre, non, c'est des populations civiles, simplement. Et ça, ça s'appelle génocide. N'importe dans quel coin du monde que se passe, c'est un génocide.
C'est aussi un génocide, enfin, je veux dire, c'est aussi un génocide culturel, éducationnel, parce que c'est un pays qui est sous blocus, qui est déjà affamé, qui n'a pas de médicaments, qui, pour soigner les blessés, c'est extrêmement difficile, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc voilà, c'est très, très grave. Et c'est vrai que la politique de colonisation n'a fait qu'aggraver les choses, parce que jamais ils n'ont respecté les résolution même du Conseil de sécurité.
Bon, voilà, on va commencer peut-être à écouter les informations d'Argentine. Déjà qu'on est un petit peu indigné, on est un petit peu atterré pour cette information meurtrière qui nous arrive par la presse, pour la télévision. Notre révolte nous empêche d'être calmes, mais nous avons un projet de parler un peu d'Argentine aujourd'hui, essayons de le faire, malgré notre indignation.
Oui, un peu, on a choisi avec Néstor et Liz l'émission d'aujourd'hui pour parler d'Argentine, et parce que c'est le 7e anniversaire de l'Argentinazo de Milan. Et le 19 et 20 décembre, c'est-à-dire il y a une semaine, on a célébré cette année de la geste, du grand soulèvement populaire, voilà, qui a été l'Argentinazo. Alors c'est peut-être l'opportunité, pas pour faire un bilan et nous lancer dans des longues
discussions. Ce que je peux te demander, oui, que tu expliques un petit peu, nous on le connaît, mais pas beaucoup, je crois que tous les auditeurs ne sont pas au courant, quand ils parlent d'Argentinazo, que pour nous c'était simple de comprendre, mais vous expliquez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a cette année, dans ce mois de décembre.
Bien, au mois de décembre 2001, et l'Argentine était dans le cadre d'une crise financière très grave. L'épargne avait été gelée et expropriée par le gouvernement. Et il y avait une situation de misère qui s'aggravait de jour en jour. Et dans le gouvernement, il y avait un ministre qui s'appelait Cavallo, qui d'ailleurs, il y a 15 jours, a été ici à Paris. Et
il voulait faire une conférence.
Oui, il a essayé de faire une conférence, il a été répudié par des organisations argentines. Et c'était un gouvernement de centre-gauche, hein, celui qui était au pouvoir, qui appliquait cette politique de misère, d'expropriation, et qui allait conduire à ce qu'on appelle un défaut, c'est-à-dire l'impossibilité de payer la dette extérieure. L'Argentine, à ce moment, avait signé un accord avec le Fonds monétaire international. Tout ça a motivé des mobilisations populaires très importantes dans tout le pays, contre la politique du gouvernement et en particulier contre le ministre Cavallo. À ça, le gouvernement a répondu en décrétant l'état de siège et en essayant d'interdire toute manifestation populaire. Il y a eu des mobilisations auprès des supermarchés pour obtenir de la nourriture. Et à partir de la déclaration de l'état de siège, les choses, au lieu de se calmer, ont pris un tournant encore plus agité. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont marché vers la place de Mai, qui est la place qui, du gouvernement, disons, face à laquelle est située la maison, la Casa Rosada.
La réponse du peuple, ça a été ça.
La réponse du peuple, et du peuple dans tous les sens du terme, c'est-à-dire il y avait la jeunesse, il y avait la classe ouvrière qui venait des alentours, de la banlieue de Buenos Aires,
de Bidonville,
et il y avait aussi les étudiants, une partie de la classe moyenne très importante, qui réclamait contre cette politique d'expropriation. Alors, il y a eu une répression très très forte, il faut se rappeler qu'il y a eu 38 morts, des jeunes surtout tués par la police, mais que les mobilisations ont conduit à que le président de la République prenne la fuite. Il a pris la fuite, littéralement, de la Casa Rosada, il a pris un hélicoptère et il est parti, et il a démissionné, il y a eu une vacance de pouvoir.
Qui peut appeler le nom de
De la Rua, Fernando de la Rua.
Fernando de la Rua.
De la Rua. Il a littéralement pris la fuite, le ministre de l'économie avait démissionné le jour d'avant, c'est-à-dire que, de ce point de vue, la soulevation populaire, la mobilisation populaire a réussi à faire tomber le gouvernement. Après ça, il y a eu toute une série de tractations, il y a eu un nouveau président qui a été désigné, qui a été aussi mis à la rue par une mobilisation populaire, et après toute une série de mobilisations et de mouvements populaires et de
tractations. Et en Provence, comment ça s'est passé?
En Provence, il y a eu aussi des mobilisations, mais le centre était vraiment la ville de Buenos Aires. Et ce qui est intéressant, pour des raisons que je vais vous indiquer avant, c'est que le centre était la place de Mai. C'est-à-dire, il y a une longue tradition en Argentine, peut-être plus que dans des autres pays, qui n'existe pas dans des autres pays. Par exemple, elle n'existe pas au Brésil. Que quand on se mobilise, vraiment, politiquement, on va à la place de Mai. Ça, c'est lié aux mobilisations ouvrières, aux mobilisations péronistes aussi, voilà. Le 17 octobre
1945.
Il y a toute une histoire. Alors, on s'est mobilisé surtout à la place de Mai. Il ne faut pas oublier que Buenos Aires est la capitale d'une agglomération avec le Grand Buenos Aires qui fait quand même, je ne sais pas, 12 millions d'habitants, hein, c'est le tiers du pays qui habite dans la région, si on prend tous les grands Buenos Aires. Ce n'est pas simplement la ville de Buenos Aires. La classe ouvrière, et surtout les plus pauvres, habitent dans la banlieue lointaine, mais encore dans les grands Buenos Aires. C'est-à-dire que quand on parle de la place de Mai, on ne parle pas de la place seulement de la ville de Buenos Aires, mais de cet ensemble qui est quand même l'ensemble populaire le plus important, le deuxième est Rosario, l'ensemble populaire de Córdoba, l'ensemble populaire le plus important de l'Argentine. Bien, après toute une série de mouvements politiques, c'est Dualde qui arrive au gouvernement 10 jours après. Entre-temps, l'Argentine décrète le non-paiement de la dette extérieure, qu'après elle va payer avec le gouvernement de Dualde et de Kirchner. On arrive à un accord pour commencer à payer à nouveau la dette extérieure. Mais entre-temps, arrive le gouvernement de Dualde qui essaye de recomposer un peu la situation politique en utilisant la vieille chemise du péronisme. Dualde était un des dirigeants, les dirigeants péronistes les plus importants à ce moment. Il était sénateur, mais il avait été gouverneur de la province de Buenos Aires et vice-président de Menem. Et on arrive aux élections de 2003, comme élection de Cruz, et Kirchner arrive au gouvernement. Aujourd'hui, on est dans le gouvernement de son épouse.
Une question, combien de temps il a duré ce mouvement?
Et le gouvernement de Dualde a duré de janvier 2002, disons, jusqu'à mai 2003. Et octobre 2003, si on met les élections et après la prise de pouvoir du gouvernement de Kirchner. Mais je voudrais souligner une chose, si tu me permets, en relation à l'Argentina, pour les lier avec la situation actuelle.
Perfect.
On a toujours dit, et c'est vrai, que l'Argentinazo a été une des réponses, et peut-être une des plus importantes au niveau de la mobilisation populaire, à la politique néolibérale. Parce qu'on a dit, l'Argentine, avec le gouvernement Menem, avait conduit, qui était aussi un gouvernement péroniste, il faut se rappeler de ça, avait conduit une politique néolibérale, ce qu'on a dit, on appelle une politique néolibérale extrême. Privatisation, déréglementation, les capitales étrangers, relations avec les États-Unis, etc.
À la chilienne.
Encore plus, encore plus brutalement qu'à la chilienne, encore plus brutalement qu'à la chilienne. Tout ça se faisait en plus avec un dollar à un peso, c'est-à-dire il y avait, entre guillemets, une fausse prospérité édifiée sur la base du crédit international.
Oui, toujours la même histoire. Hein.
La différence avec les Chiliens, c'est qu'en partie l'expansion chilienne s'est appuyée sur le cuivre, les exportations de cuivre. Et l'État chilien a toujours gardé le monopole de l'exportation du cuivre, c'est-à-dire Codelco, avec ça, en plus, on finance l'armée au Chili. En Argentine, même pas ça. Et au lieu de s'appuyer sur les exportations, c'est le cas du gouvernement Kirchner, il s'est appuyé sur les crédits internationaux. Bien, quand ça a explosé, la bulle en 2000 ans a explosé, mais il a explosé à partir d'une mobilisation populaire. Ce qui est important dans le cas de 2000 ans, c'est que cette crise du néolibéralisme, cette crise économique et financière de l'année 2000 ans, a donné lieu à une irruption politique.
Une rupture complète avec la politique.
Une rupture, en tout cas, très très importante, avec la politique du gouvernement et les gens dans la rue, en demandant la démission du gouvernement, à bas le gouvernement, on ne paye pas la dette extérieure, etc., etc. Et il y a eu une dévaluation, bien, je passe sur les détails. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une crise économique. On est à nouveau dans une crise économique. Et à nouveau, peut-être l'Argentine, je ne sais pas s'il va être l'exemple, parce que tu sais que les Argentins se prennent toujours pour les meilleurs du monde, hein? Ouais. Mais dans ce cas, c'est bien qu'on soit les... Mais en tout cas, ce qui est intéressant, face à cette crise qu'il y a aujourd'hui, on va y revenir, j'imagine, c'est est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas une réponse du mouvement ouvrier, des paysans, des pauvres, autour de la crise. Parce que c'est pas automatique, c'est pas parce qu'il y a une crise que les gens, il faut qu'il y ait la mobilisation, la décision de cette mobilisation. Et ça, c'est à mon avis, ce qui est intéressant aujourd'hui, que à nouveau l'Argentine et l'Amérique latine dans son ensemble, et cette fois le Chili aussi, sont en crise. Mais une crise très, très, très forte. Est-ce qu'on va reprendre les mouvements de 2000 ans en Argentine, c'est-à-dire la mobilisation, la sortie à la rue, oui ou non? Et ça, c'est en train de se jouer aujourd'hui. Il y a une différence politique, quand même. C'est que le gouvernement qui est aujourd'hui en place en Argentine, gouvernement Kirchner, est plutôt un gouvernement péroniste de centre-gauche, pour le situer de quelque part. Par contre, le péronisme était en 2000 ans en paix dans l'opposition au gouvernement de la Rua. Mais d'un autre côté, c'est un gouvernement qui suit à peu près la même politique en 2007, non, 2008, on est en 2008, que, presque 2009, que le gouvernement Menem, que le gouvernement de la Rua. Alors, il y a de ce point de vue des choses très, très intéressantes qui se passent en Argentine.
Justement, il y a une question. Nous avons lu, il n'y a pas longtemps, avant qu'il arrive, une information que nous avons beaucoup lu. La décision de Mme Kirchner de finir avec les fonds de pension. Hein? Avec, finir avec les fonds de pension. Ça veut dire les retraites de travailleurs argentins dans des fonds de pension, que tu sais bien à quoi ça servait, à les spéculations financières, etc. Donc, elle a arrivé à passer une loi dans laquelle l'État prend la charge et la responsabilité de la retraite des travailleurs. On parlait de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une imposition, une espèce de prévention, une avance, une espèce de pression. J'imagine comme qu'il pressent, comme tu disais, il va se passer des choses pour la crise. Je crois que c'est comme une espèce d'anticipation à que les fonds de pension pourraient être un des causes principales pour des réclamations d'une part importante, un peu importante de la population argentine.
Oui,
comment tu le vois, toi?
Les fonds de pension, en plus, la crise des fonds de pension est clé pour le Chili.
Ah, ben dis-donc. Elle est terrible.
Elle est terrible.
Un tiers des capitaux d'hier a disparu.
Oui, oui, effectivement.
On donne les chiffres.
Et la retraite pour les travailleurs chiliens... n'existe presque pas. C'est la monnaie d'échange, comme on dit, complètement. En Argentine, la situation était un peu différente. Parce que le gouvernement, les fonds de pension étaient précisément la privatisation des retraites, a été introduite par Menem dans les années 90. Et c'était une des grandes affaires du capital financier en Argentine. Mm-hmm. Parce que via les fonds de pension, le capital disposait d'une masse financière énorme pour spéculer, etc. En plus, il faisait un business incroyable parce qu'il prenait des commissions vraiment usuraires. Le gouvernement avait déjà introduit la possibilité de revenir au secteur de public pour les gens du fonds de pension. C'est-à-dire qu'il y a eu en Argentine dans les dernières années un mouvement vers la retraite publique en quittant le secteur privé. Mais quand même, les fonds de pension conservaient une grande importance, surtout parce qu'il y avait une masse d'argent liquide qu'ils contrôlaient, qu'ils manipulaient. Et le gouvernement a fait une chose avec laquelle on ne peut pas être en désaccord, bien sûr que non, mais qui était de nationaliser cet fonds de pension. Mais l'objectif n'est pas d'augmenter les retraites, ni de favoriser la retraite de la population.
Nous devons garantir, moi.
Oui, mais maintenant, ce que le gouvernement a fait, je vais te donner les exemples, c'est utiliser l'argent qui était gelé par les fonds
pour
de
les
pension
privés, pour, les privés.
Pour lancer des programmes favorables au grand capital. Par exemple, il a lancé un programme pour que les gens achètent des voitures. C'est pas les travailleurs qui vont acheter des voitures. Alors, il est financé avec l'argent qu'il a récupéré, entre guillemets, des fonds privés.
Des fonds privés.
Et des fonds de pension.
De la retraite.
C'est-à-dire, il dit, il a lancé un grand plan de relance, des travaux publics, qui en réalité c'est pas un grand plan, c'est un petit plan avec beaucoup d'affairisme contre la crise. Et il a besoin, il avait besoin de cet argent pour lancer ce plan. Mais Nestor, il y a une autre raison. Il y a une autre raison. L'Argentine doit payer en 2009 de 15 à 20 milliards de dollars de dettes extérieures. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas cet argent. On discute en Argentine s'il lui manque 2 milliards ou 8 milliards. Mais il lui manque de l'argent. Parce qu'en plus, il y a un problème, et de certaine manière c'est le même que Chili, les prix du soja a tombé d'une manière terrible.
Tous les matières premières, on pensait que c'était...
Oui, effectivement. Mais,
le cuivre,
il avait tombé par terre. Oui, tombé par terre. Mais le gouvernement vivait, à la fois, le budget de l'État vivait de l'argent, avec cet argent, on payait aussi la dette extérieure. Aujourd'hui, cet argent ne rentre plus.
C'est pas possible de le laisser.
Mais la dette doit être payée. La dette doit être payée. L'Argentine, si l'Argentine rentre à nouveau dans une situation de défaut, c'est la catastrophe pour les pays. Alors, le gouvernement fait équilibre.
C'est balancé. Hein?
C'est-à-dire, parfois, il adopte des mesures, disons, de gauche, comme les fonds de pension, comme la nationalisation des fonds de pension, poursuivre une politique de droite, c'est-à-dire payer la dette extérieure. Parce qu'ils n'utilisent pas cet argent pour
développer,
pour développer, par exemple, pour payer des meilleures retraites, etc. Non. Je te donne un exemple. Ils ont donné, comme augmentation exceptionnelle, 200 pesos. À tous les, bah, pas tous les retraités, aux retraités les plus bas. 200 pesos, c'est moins de 50 euros, 40, 45 euros d'augmentation. L'augmentation des retraites en 2008 a été à peu près de 15%. L'inflation, c'est de 25%. C'est-à-dire que seulement en 2008, les retraités ont perdu 10% de leur retraite. Et ça va continuer en 2009, en 2010, etc. Alors cet argent, bien sûr, on se félicite du fait qu'on a nationalisé...
Voilà, côté, là, voilà,
mais
côté.
C'est pour servir une politique qui essaye de sauver les affaires du grand capital, pour sauver les paiements de la dette, pour sauver l'industrie automobile, pour sauver cette industrie, donner des crédits, essayer, comme on dit, tapar agujeros. Comment dire ça en français?
Espagnol, on dit ça. C'est difficile en français de te dire.
Non, il y a mot. Voilà. Colmater les brèches. Colmater les brèches. On essaye de colmater les brèches. Et pour colmater les brèches, on prend l'argent où il est.
Voilà. On est cherché partout pour taper ça et on fait de nouveaux trous.
Ouais.
Bon, voilà, c'est comme ça la situation interne de l'Argentine. Hein. Et à niveau des mouvements sociaux, comment tu vois ça?
D'abord, je voudrais indiquer une chose pour les CALPA, que c'est important. Il y a eu les 24.
Le 24, c'était passé dans la réunion?
Non, il y a eu une manif en Argentine, à la place de Mai, pour le 7e anniversaire de l'Argentina. Cette manif a été organisée par un ensemble d'organisations de gauche et il a produit un document qui a servi pour être lu à la manif. Et une autre chose importante de cette manif, c'est que les orateurs de cette manif n'étaient pas les organisations de gauche, les partis de gauche, mais des représentants de différents secteurs du mouvement ouvrier en grève, en lutte, etc. Surtout, je vais après dire deux mots, si tu me donnes un peu le temps, de General Motors, que c'est une grève très très importante en Argentine, et des autres secteurs en lutte. Alors, cette mobilisation du bar autour de l'Argentinazo a aussi élaboré ce que dans notre jargon, on appelle un programme 14 points de lutte contre la crise.
Élaboré à la base.
C'est ça qui est important.
C'est ça qui est important, parce que ce n'est pas les politiciens ni les techniciens de l'université.
Non, c'est avec le secteur ouvrier en lutte qui ça a été élaboré.
Les syndicats aussi.
Et les syndicats, etc.
Les étudiants
aussi, surtout avec un mot d'ordre très simple, que la crise soit payée par les capitalistes et par les impérialistes, pas par le peuple. Alors, je voudrais attirer l'attention parce que on n'a pas eu encore en France.
Aucune information.
Et bien sûr, la presse bourgeoise.
Ni la radio, ni rien.
On n'a rien dit de cette manif. Et en plus, c'est une manif qui a réuni des mouvements syndicaux, des syndicats, etc. Et après, Maurice Trotskiste, anarchiste,
tout
le monde, et élaborer un programme de lutte contre la crise que Kalpa va diffuser ici en France, et c'est le document que j'ai
lu. Qu'on prenne modèle, Marcelo.
Oui, effectivement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, élaborer un programme face à la crise. Je te donne un exemple, General Motors. J'attire l'attention sur General Motors parce que vous savez que General Motors est en faillite aux États-Unis. Alors il y a General Motors en Argentine aussi. Les Chiliens ont la chance de ne pas avoir d'industrie automobile, mais l'Argentine et le Brésil, ça explose de tous les côtés. L'industrie automobile en Argentine et au Brésil est aussi en crise. General Motors a décidé, comme les autres, usines de fermer et de suspendre
la fabrication
et le personnel. Et surtout, il a commencé une politique de mettre en chômage les contratados, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de CDI, des intérimaires, comme on dit en France. Ici en France aussi, ils commencent toujours par les intérimaires.
Pour
les plus faibles. Renault l'a fait. Sauf qu'en Argentine, les ouvriers de General Motors Santa Fe, dans la province de Santa Fe, n'ont pas accepté cette politique. Ils ont dit, on n'accepte pas que les contratados soient mis à la porte. Ils ont essayé d'occuper l'usine. Ils l'ont presque occupé, il y a un conflit, il continue, parce que d'un côté il y a le gouvernement, l'entreprise, etc. Et d'autre côté les ouvriers qui disent, on n'accepte pas qu'une partie des ouvriers soit mise à la porte. Si vous avez un problème de liquidité, de salaire, on voudrait voir les livres, et on accepte que le travail soit distribué entre l'ensemble des ouvriers de l'usine.
Quelle solidarité!
Oui, c'est très important.
Et surtout d'avoir le nez dans les comptes.
Dans les comptes, évidemment. À ce moment, on veut la même politique pour tous. On n'accepte pas la division entre intérimaires et les gens qui ont décédé. Que malheureusement, c'est un peu la situation en France. À Peugeot, à Renault, on commence pour mettre à la porte les
travailleurs ponctuels,
les intérimaires, les précaires, et les autres ne réagissent pas, il n'y a pas. Alors, c'est une grève très très importante, on verra lundi, parce que le gouvernement a imposé ce qu'on appelle la conciliation obligatoire. C'est-à-dire, il a dit à l'entreprise et aux ouvriers, pas aux syndicats, parce que les syndicats étaient avec la patronale, aux ouvriers, aux délégués des ouvriers, on ne fait rien jusqu'à lundi prochain. Et lundi prochain, on verra, c'est-à-dire après-demain, qu'est-ce que ça donne. Un des points de la place de mai, du meeting de la place de mai, était l'appui à cette grève qui est vraiment très important, le général Mostov. Et pourquoi c'est important aussi? Parce qu'il est important pour les ouvriers des États-Unis aussi. Et pour les ouvriers des General Motors de tout le monde.
Pour les principes.
Et pour les principes et pour le fait que beaucoup d'ouvriers des General Motors vont aller au chômage. Vont aller au chômage des dizaines de milliers d'ouvriers des General Motors et des Renault et des Peugeot vont aller au chômage. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on a chez nous aussi une Renault et une Peugeot, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est très intéressant. Alors, peut-être samedi, je ne sais pas si vous avez un programme. Non, samedi prochain, non, l'autre samedi.
En 15 jours.
En 15 jours, on pourra faire
les points sur
cette grève, oui. Sur ces conflits.
Oui, il faut suivre.
De General Motors, parce qu'il est très important.
Il est vraiment.
Marcelo? Est-ce que le programme, on peut l'avoir et le traduire en français?
Le programme est
Oui, je vais le traduire, le programme, les 14 points, okay, et d'accord. Je te l'envoie. Oui,
tu pourrais un petit peu nous donner quelques points, au moins, pour tous ces programmes.
Le premier point est très simple, que la crise soit payée par les patrons, les banquiers et les terratenientes.
Les spéculateurs.
Les spéculateurs. Et après... Et interdiction de licenciement, ouverture des livres, des comptes,
voilà.
Et occupation, expropriation, et mettre en fonctionnement toute usine qui ferme ou qui met des ouvriers à la porte, salaire équivalent au...
Équilibré
pour les nécessités, et non à l'FMI, non au Club de Paris pour le non-paiement de la dette,
voilà.
Et... appui aux ouvriers ruraux, que ça c'est très important.
Les ouvriers ruraux.
Très isolés, il y a le conflit, bon, je ne reviens pas sur les conflits qu'il y a eu, les problèmes de santé, éducation, les problèmes de Julio López, l'apparition.
Oui, la disparition des camarades.
Tout un ensemble de propositions sur la crise elle-même. Et ce qui est important, c'est le fait que ce programme est porté, pour l'instant, c'est une minorité, il ne faut pas non plus dire les choses, il faut nous dire les choses comme elles sont, mais par des syndicats, des organisations ouvrières, et des organisations...
Tout le monde de base, on peut dire, tout le monde de base, c'est-à-dire la société active, disons.
Oui, mais est encore minorité parce que nous avons... le péronisme, nous avons la CGT, CTA.
Comment cela a été reçu, à ton avis, pour les syndicats qui sont toujours légalistes et qui cherchent toujours à soutenir le gouvernement?
Non, les syndicats, c'est un des gros problèmes. un des gros problèmes, c'est que la politique du gouvernement est appuyée pour ce que nous appelons, nous, la bureaucratie syndicale. La bureaucratie syndicale. Et ça, c'est un vrai problème, en plus.
C'est le soutien qu'il y a au gouvernement.
C'est pas seulement un soutien de la force de répression qu'il a aussi, bien sûr, mais aussi de cet dirigeant vendu, corrompu. Et malheureusement, aujourd'hui, avec une variante de droite et une variante de gauche, c'est-à-dire la CGT et la CTA. Les documents dénoncent l'ensemble des deux, la CGT et la CTA. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des gens qui avant travaillaient avec la CTA, comme Miguel Bonasso, qui vient de rompre avec le gouvernement en disant que c'est un gouvernement droitier, des mouvements piqueteros qui avaient intégré le gouvernement au début, ça durait 5 ans presque, Libre del Sur, qui vient de rompre aussi avec le gouvernement. Alors toute une partie des gens qui avaient appuyé,
qui avaient soutenu le gouvernement,
entre guillemets, sous un drapeau progressiste, disent avec ce gouvernement qui est un gouvernement...
On avance pas dans la direction.
On avance, on va vers la mauvaise direction, alors ils sont en train de rompre. Ils ont appuyé aussi une partie ces documents et cette manifestation.
Comment on appelle les documents? Comment on va appeler les camarades?
Un document unitaire lu à la place de mai le 20 décembre 2008.
Document unitaire.
Document unitaire de l'anniversaire de l'Argentina. Et qu'il était...
On va le traduire pour le faire diffuser parce qu'il nous semble assez important.
Ah oui.
Parce qu'on n'a aucune information de l'Argentine, ni aucun pays d'Amérique latine, sauf quand on se voit là dans le chef d'État, c'est tout, quand il y a un massacre, un accident, etc.
Net, on aurait peut-être pu le voir, mais on ne l'a pas vu.
Mais oui, mais...
C'est trop récent, peut-être.
C'est trop récent, et en plus, on vient de voir, c'est important, parce que c'est une réponse populaire à la crise. C'est pas simplement...
On n'attend pas les coups.
Sinon on prévoit parce que je milite en France. En France, ça manque. En France, il y a des luttes, mais...
sont tout ponctuels.
Mais tout ponctuels. Il n'y a pas encore, sauf peut-être de certains côtés, la jeunesse, etc. Mais il n'y a pas encore une réflexion dans les mouvements ouvriers,
Non, le problème est le consumisme de la société occidentale. A été piégé, le syndicat...
Oui, le consumisme,
Chaque courrier, ici, il y a des dettes à payer pour s'acheter une maison, s'acheter une voiture, tout ça, c'est un problème.
Il y a aussi une certaine, comment on pourrait dire, confiance dans la gauche institutionnelle. Finalement, tout ça pourra s'arranger à la prochaine élection.
L'État veut nous donner son avis.
De toute façon, il faut savoir que je pense que les Argentins ont un taux de syndicalisation plus important qu'en France.
Ah oui, oui.
Parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'ici, c'est tellement bas que... Je pense que... c'est chacun pour soi un peu.
Ouais. L'Argentine, c'est un pays d'une richesse à niveau d'expérience sociale extraordinaire, pas simplement dans la capitale, sinon aussi dans des provinces, dans l'histoire, on regarde, il y a des choses d'une grande richesse. Donc, ça reste dans la mémoire, et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser effacer. Parce que si, en dehors de deux ou trois choses intéressantes après mai 68, tu as deux ou trois événements dans 30 années. Hein. Le reste, c'est la calme, la nina, là. Et tout avec certaines, soutien un peu des bouts de lèvres, déjà.
Ce serait que dans les autres provinces, ça puisse suivre également.
Ah oui, mais cette manif du 20 décembre a été, la plus importante était à Buenos Aires, mais elle était suivie aussi dans des autres villes, et surtout à Cordoba. Je rappelle que la grève de General Motors n'est pas à Buenos Aires, elle est dans la province de Santa Fe. Et dans la province de Santa Fe, on vient de tuer un ouvrier, il y a eu une attaque de la bureaucratie syndicale contre un syndicat de l'industrie laitière, trois semaines, et ils ont tué un activiste syndical. Hein. Les choses en Argentine, c'est pas aussi calme qu'on le croit. Il n'y a bien sûr, il n'y a pas la répression de Milan.
Nous, on a donné beaucoup d'informations dans d'autres émissions sur le gâtillon facile, comment on appelle en français?
La gâchette facile.
La gâchette facile dans la police en Provence. Surtout en Provence, un peu moins. À Buenos Aires, mais.
Beaucoup d'informations
sur la façon comment la police règle les comptes avec des gens. S'agit pas de délinquants, il parle de syndicalistes ou des activistes politiques.
Simplement des jeunes, hein. Simplement des jeunes, hein.
Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Abordons le sujet de le Seigneur Lopez qui a sa disparition. Quelle poursuite?
Le gouvernement essaye d'enterrer le dossier, et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de nouvelles, et la famille de Lopez non plus n'a pas contribué dernièrement. Alors, on ne peut pas dire que la situation est enterrée, mais malheureusement, on n'a pas réussi à débloquer, à obtenir des résultats et cette lutte. Par contre, il y a une autre question qui a mobilisé un peu l'attention de tout le monde, c'est qu'un jugement d'une instance du pouvoir judiciaire a ordonné la liberté d'une série de répresseurs. Hein. Arastis, Acosta. Ça a été refusé finalement, parce qu'il y a eu une réaction très très forte, mais ça a mis en lumière l'impasse.
Les complicités qui existent.
Et l'impasse de la politique du gouvernement. L'impasse de la politique du gouvernement, parce que la politique du gouvernement, c'est d'essayer de faire durer les jugements pour que ça...
Claro, porque pendant que t'en passes, le mémoire s'en va.
Oui, oui, voilà. Effectivement.
Mais le carcériste, c'est un peu pareil. Oui. Je viens de lire ces derniers jours. Il y a une semaine, il a eu des condamnations faites pour le tribunal en première instance. Et après, ces 10 années, 20 années, disons, pour les torsionnaires. Voilà. Et d'un coup, dans l'appellation, le cours d'appellation avec le ministre Solis, de son dénom Solis, il a cassé la première décision du tribunal pour lui donner trois années à chacun, des gens qui ont 20 ans de prison, trois années, hein, avec l'élection immédiate pour venir signer une fois la semaine. Tu vois la...
Oui.
Mais donc, il y a maintenant toute une nouvelle, réclamation faite par une mise en question de cette décision pour l'envoyer à la Cour suprême. Tu vois, c'est la complicité dans les tribunaux de justice, elle est évidente. C'est mal appelé système démocratique, hein, elle est partout pareil, mais ici... Je crois que pas, c'est très différent, parce qu'on voit aujourd'hui un balbus de la bande de M. Pasqua condamné trois années, mais il est parti à la maison.
Pas encore, mais il va partir.
Mais bien sûr, c'est annoncé. L'avocat, il a dit qu'il partirait à la maison.
Oui, oui. Voilà. Il va à Marchiani, oui. Mais on a ici en France le fait que de la prison de... Julian et Sagasa.
Par contre, les garçons qui étaient en prison, qui ont les refusé de la liberté, avaient des présumés. Voilà. Tu vois les deux.
Contre l'avis du juge de liberté. Hein.
Voilà. Donc, tu vois les.
Ça fait 36 poids, 36 mesures selon.
Le juge, comme il va. Hein, on joue avec la vie des gens, avec. Au nom de la justice.
Oui, une dernière question. Tu sais que on a suivi de près l'histoire du glacier Pasqua Lama et on a découvert que au mois d'octobre ou novembre, voilà, je ne sais pas, Christina Kirchner a donné son accord à la compagnie canadienne minière.
C'est pire que ça. C'est pas que c'est un autre accord. Elle a cassé la décision de la. L'accord fait pour les deux, pour la chambre, pour la chambre invitée, les deux camarades, ils ont fait une loi de protection pour toutes ces
personnes. Ah oui,
et
oui.
Et madame, elle a décidé que non.
Madame a élu son veto.
Les caprices de France, comme dans l'époque des royaumes, elle dit non, ça non.
Non, bah, c'est pas, comme tu dirais, c'est le système, entre guillemets, démocratique qui donne au président de la République les droits de veto face à une décision
du Parlement. Voilà.
Mais l'industrie minière aujourd'hui en Argentine est un secteur clé de toutes les affaires. Mm-hmm. Un secteur clé, alors il faut empêcher toute loi qui peut-être un jour gêner.
De protéger l'environnement aussi.
Oui, oui, mais effectivement. Mais
la destruction écologique va être fabuleuse.
Ah, elle est. Elle est.
On parlait même de problèmes de Gucci, les indigènes de Salta qui sont dans un conflit énorme aussi, qui sont en train de se battre pour qu'on respecte le territoire.
Oui.
Une situation assez dangereuse pour l'apparition de ce peuple-là. Bon, voilà, un peu de musique, Lise, pour qu'on est à la fin de l'émission. Un peu de musique. Parlait même de problèmes de Gucci, les indigènes de Salta qui sont dans un conflit énorme aussi, qui sont en train de se battre pour qu'on respecte le territoire.
Oui.
Une situation assez dangereuse pour l'apparition de ce peuple-là. Bon, voilà, un peu de musique, Lise, pour qu'on est à la fin de l'émission. Un peu de musique. Thank you.
terra. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño.
Esta visite, en souhaitant que Calpac réalise ses activités, peut nous donner l'information pour pouvoir diffuser l'activité que vous réalisez sur l'Argentine, sur le monde social d'Argentine, qu'il n'y a, comme on le dit, on le répète, il n'y a pas d'information dans la presse, dans la télévision française, et que c'est important le rôle des associations comme la tienne.
Merci Nestor de nous avoir reçus comme d'habitude, de la solidarité qu'il y a dans notre travail, qu'il y a le vôtre. Et je m'engage pour la prochaine émission à vous tenir informé conflits de General Motors.
Nous sommes très importants.
Très important en relation à la crise et à tous les événements que nous sommes en train de vivre à l'Argentine et partout dans le monde.
Merci beaucoup. De toute façon, c'est le rôle de Radio Libertaire pour vivre les antennes au moment social, au moment politique et économique, dans ceux qui n'ont pas de voix, ici peut s'exprimer.
Merci.
Voilà. Bonsoir, à la prochaine. Tribune latino-américaine, merci pour l'écoute. En 15 jours.
Thank you.